Chapitre 26. J'étais assis dans ma cellule à regarder le mur. Ce n'était pas une cellule miteuse, pas du tout. À dire vrai, elle ressemblait plutôt à une chambre d'étudiant. Des murs de briques peints, un bureau, une chaise, un lit, une salle d'eau. La porte était en acier cependant, et il y avait des barreaux à la fenêtre. Impossible de sortir de là. Comment expliquer la présence de cette cellule dans le centre de lancement de Baïkonour? Aucune idée. Posez la question aux Russes. Le lancement a été prévu pour ce jour. Un médecin accompagné d'un garde bodybuildé ne tarderait pas à entrer par cette porte. On m'injecterait quelque chose, et ce serait la dernière fois que je verrais la Terre. Comme par hasard, j'entendis cliqueter la serrure de la porte. Quelqu'un de plus courageux aurait peut-être vu là une occasion à saisir. Charger, se faufiler entre les gardes. J'avais abandonné tout espoir d'évasion depuis longtemps, cependant. Qu'aurais-je pu faire? M'enfuir dans le désert kazakh en comptant sur ma chance? La porte s'ouvrit et Strat entra. Les gardes refermèrent derrière elle. « Salut !» Je lui lançai un regard noir depuis ma couchette. « Nous sommes dans les temps. C'est bientôt l'heure de partir. »
« Youpi !»«
Je sais que vous ne me croirez pas, » dit-elle en s'asseyant sur la chaise. « Mais ça n'a pas été facile pour moi. »«
Ouais, vous êtes du genre sentimental. »
« Vous savez ce que j'ai étudié à l'université ?» poursuivit-elle en faisant comme si elle n'avait pas entendu. Je haussai les épaules. « L'histoire. J'ai une maîtrise d'histoire. Souvent, les gens s'imaginent que j'ai étudié les sciences, le management, voire la communication, mais non. Je suis historienne. »«
Ça ne vous ressemble pas, » répondis-je en m'asseyant sur mon lit. « Je ne vous imagine pas regardant dans le rétroviseur. »
J'avais 18 ans et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je me suis inscrite en histoire par défaut. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein ?
demanda-t-elle avec un sourire en coin.
Je l'avoue.
Elle se tourna vers la fenêtre et la rampe de lancement, visible au loin.
J'ai beaucoup appris, et ça m'a plu. On est trop peu conscient de la chance qu'on a de nos jours. Pour la plupart du temps, le passé n'a été qu'une succession de malheurs. Et plus on remonte dans le temps, pire c'était.
Elle se leva et déambula dans la cellule.
Pendant 50 000 ans, jusqu'à la révolution industrielle, la civilisation tournait autour d'une chose seulement, la nourriture. Toutes les cultures, partout, dédiaient la majeure partie de leur temps, de leur énergie, de leur capital humain et de leurs ressources à cet objectif. Même l'Empire romain. On ne parle que des empereurs, des armées, des conquêtes. La plus grande réussite des Romains, c'est le système qui leur a permis d'acquérir des terres arables et de transformer des vivres et de l'eau sur de grandes distances.
Elle marcha jusqu'au côté opposé de la cellule.
La révolution industrielle a mécanisé l'agriculture, nous permettant de mettre notre énergie ailleurs. Mais on ne parle que des deux derniers siècles. Avant ça, la plupart des gens étaient plus ou moins directement impliqués dans la production de nourriture.
Merci pour la leçon d'histoire, mais si ça ne vous fait rien, je préférerais vivre différemment mes derniers moments sur Terre.
Par exemple, vous pourriez me laisser tranquille. Les explosions nucléaires de Leclerc dans l'Antarctique nous ont permis de gagner un peu de temps,
reprit-elle comme si de rien n'était.
Pas beaucoup. Sans compter qu'à la longue, la montée des eaux et la destruction du biome océanique pourraient être encore plus problématiques que les astrophages. « Rappelez-vous ce que nous a dit Leclerc. La moitié de la population mondiale va mourir. »«
Je sais. »«
Non, vous ne savez pas. Parce que c'est encore pire que cela. »«
Pire que la mort de la moitié de l'humanité ?»«
Évidemment. Leclerc est parti du principe que toutes les nations de la Terre coopéreraient, qu'elles se partageraient équitablement la nourriture disponible. »« Vous croyez vraiment que ça va se passer comme ça ? Vous croyez que les États-Unis, la plus grande puissance militaire de tous les temps, va rester les bras ballants pendant que la moitié de leur population crèvera de faim? Et la Chine, une nation de 1,3 milliard d'habitants difficile à nourrir en temps normal, vous croyez qu'elle laissera tranquille ses voisins sous-armés?
Il y aura des guerres. conclus-je en secouant la tête.
Oui, il y aura des guerres. Des conflits déclarés pour les mêmes raisons que les conflits de l'ancien temps. Pour les ressources alimentaires. Tous les prétextes seront bons. La religion, la gloire. Mais il s'agira, et il s'est toujours agi de manger, de terres arables et de gens pour les cultiver. Mais ça ne va pas s'arrêter là, poursuivit-elle. Car une fois que les pays désespérés et affamés commenceront à s'envahir mutuellement, la production agricole va chuter davantage. Vous avez entendu parler de la révolte des Taiping? Une guerre civile qui a eu lieu en Chine au XIXe siècle. 400 000 soldats sont morts au combat. Et 20 millions de personnes sont mortes de la famine qui a suivi. La guerre n'a pas permis de prendre soin des cultures, vous comprenez? Voilà le genre de conséquences que ces événements vont provoquer.
Elle croisa les bras et se frotta les épaules. Jamais elle ne m'avait semblé si vulnérable.
Malnutrition, disruption, famine. Des infrastructures entièrement focalisées sur l'alimentation et la guerre. Le tissu de la société va s'effilocher. Il y aura des épidémies aussi. Il y en aura beaucoup, partout sur la planète. Et les systèmes médicaux ne pourront pas faire face. Des épidémies autrefois facilement contenues deviendront incontrôlables.
Elle se retourna pour me faire face.
La guerre, la famine, la pestilence et la mort. L'astrophage est littéralement annonciateur de l'apocalypse. Le dernier chant, c'est notre seul espoir. Et je suis prête à faire tous les sacrifices pour augmenter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ses chances de succès.
Je me recouchai et lui tournai le dos.
« Je me demande comment vous dormez la nuit, » marmonnai-je.
Elle retourna à la porte et frappa sur l'acier. Un garde lui ouvrit.
« Bref, je voulais simplement que vous sachiez pourquoi j'ai agi comme ça. Je vous devais bien ça. »«
Allez au diable. » »«
Je n'y manquerai pas. » Vous trois allez sur Tosseti. Quant à nous, direction l'enfer. Enfin, c'est plutôt l'enfer qui viendra à nous.
Ah ouais. Préparez-vous à recevoir l'enfer, Strat. Un enfer sur pattes appelé Grace.
Franchement, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Mais je vais lui dire quelque chose, c'est certain. Des trucs pas jolis jolis. J'en suis au 18e jour d'un voyage qui durera presque 4 ans. J'atteins tout juste l'héliopause de Tosseti, la limite du puissant champ magnétique de l'étoile. Ou plutôt l'endroit où il devient assez puissant pour repousser les radiations interstellaires rapides. À partir de maintenant, la coque sera bombardée par infiniment plus de radiations. Cela n'aura aucune incidence sur moi parce que je suis entouré d'astrophages. Les capteurs extérieurs m'indiquent néanmoins que les niveaux de radiation ne cessent de grimper, ce que je trouve intéressant. En quelque sorte, ils entérinent ma progression. Si je considère ma situation froidement, cependant, on peut dire qu'à l'échelle du très long voyage qui m'attend, je viens à peine de franchir le pas de ma porte. Je m'ennuie. Je suis tout seul à bord d'un vaisseau où je n'ai pas grand-chose à faire. Je nettoie le laboratoire une nouvelle fois. J'en catalogue les équipements. Peut-être vais-je trouver une idée d'expérience à faire avec les astrophages ou les taumibes. Peut-être même écrirai-je quelques articles durant le trajet.
Oh,
et puis, j'ai quand même passé 2 bons mois avec le représentant d'une forme de vie extraterrestre intelligente. Il conviendrait de prendre quelques notes à son sujet. Je dispose d'une énorme collection de jeux vidéo et de l'intégralité des logiciels existants à l'heure de notre départ. Je suppose qu'ils me tiendront occupé un certain temps. Je vérifie mes élevages de taumib. Tous les 10 se portent à merveille. De temps à autre, je leur donne un peu d'astrophage, histoire de les maintenir en bonne santé. Les fermes simulent l'atmosphère de Vénus aussi. À mesure que mes générations se succéderont, les taumib seront de mieux en mieux adaptées à ce milieu. Dans 4 ans, elles seront en pleine forme quand je les lâcherai sur la planète. Oui, j'ai pris la décision de le faire moi-même. Pourquoi pas? J'ignore sur quel monde je vais rentrer. 13 années se sont écoulées depuis mon départ, et 13 autres passeront avant mon arrivée. 26 ans. Mes élèves seront des adultes. J'espère qu'ils seront tous vivants.
Ce ne sera sans doute pas le cas, mais je préfère ne pas y penser. Bref, lorsque je serai de retour dans mon système solaire, je ferai un crochet par Vénus pour y lâcher mes tomibes. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais j'ai quelques idées. Le plus simple serait de balancer une boule d'astrophage infestée par les tomibes. Les premiers absorberont l'énergie de la rentrée dans l'atmosphère et permettront aux secondes de se disperser. Ce sera un jour faste pour elles. Vénus doit être devenue un empire astrophage, mais Dieu sait que les tomibes sont sans pitié lorsqu'elles trouvent leur proie. Je vérifie mes vivres. Tout se passe comme prévu. Il me reste 3 mois de nourriture véritable, après quoi il me restera la bouillie. J'hésite franchement à retourner dans le coma. Je possède les gènes qui me rendent résistant, mais Yao et Ilyukina les possédaient aussi. Pourquoi risquer la mort si je n'y suis pas contraint? Par ailleurs, je ne peux pas être sûr à 100% de mes calculs de trajectoire. Chaque fois que je vérifie, j'obtiens les mêmes résultats, mais sait-on jamais? Il pourrait se produire un événement inattendu pendant que je suis dans le coma. Qu'arrivera-t-il si je sors du coma pour découvrir que j'ai raté notre système solaire d'une année-lumière? Entre l'isolement, la solitude et la nourriture dégoûtante, il se pourrait que je me décide à prendre le risque. Nous verrons. En parlant de solitude, mes pensées me ramènent à Rocky. Mon seul ami désormais. Sérieusement, Rocky est mon seul ami. Je n'avais pas vraiment de vie sociale lorsque la situation était normale. Il m'arrivait d'aller au restaurant avec des collègues ou des gens du personnel administratif de l'école, ou bien d'aller boire une bière le samedi soir avec d'anciens camarades de faculté. À cause de la dilatation du temps, cependant, tous ces gens appartiendront à une autre génération lorsque je rentrerai sur Terre. J'aimais bien Dimitri. De la bande réunie par Strat, il était mon préféré. Qui sait où il en est aujourd'hui? Si cela se trouve, la Russie et les États-Unis sont en guerre à l'heure qu'il est. À moins qu'ils soient alliés. Je n'en ai aucune idée. Je grimpe l'échelle de la salle de contrôle. Je m'assieds dans le fauteuil du pilote et active l'écran de navigation. Je ne devrais pas le faire, mais c'est devenu un rituel. J'éteins les moteurs et très vite la pesanteur disparaît. Je le remarque à peine. Je suis habitué maintenant. Les moteurs éteints, je peux utiliser le pétrovascope en toute sécurité. Je cherche un peu, mais je sais où regarder. Rapidement, je le localise. Le petit point lumineux sur la fréquence de Petrova. Les moteurs du spot A. Si je me trouvais à moins de 100 km de cette lumière, mon vaisseau serait vaporisé. Je suis d'un côté du système, et lui de l'autre. Toseti ressemble à une ampoule à cette distance. Néanmoins, je distingue clairement les moteurs du spot A. Utiliser la lumière comme moyen de propulsion libère une quantité colossale d'énergie. Peut-être pourrons-nous la mettre à profit à l'avenir. Peut-être la Terre et Eride pourront-elles communiquer avec d'immenses décharges de lumière de Petrova grâce aux astrophages. Je me demande combien il en faudrait pour générer un éclair visible de 40 Eridani. On communiquerait en morse, ou un truc comme ça. Il dispose d'une copie de Wikipédia désormais. Il ne mettrait pas longtemps à déchiffrer nos signaux. La conversation serait laborieuse, cependant. 40 Eridani se trouve à 16 années-lumière de la Terre. On demanderait « Hey, comment ça va ?» Et la réponse nous parviendrait 32 ans plus tard. Je regarde le petit point de lumière et je pousse un soupir. Je pourrais suivre sa progression pendant un certain temps, d'autant que je connais sa trajectoire à l'avance. Et je sais qu'il respectera à la lettre le plan de vol que je lui ai préparé. Il a confiance dans ma science, comme j'ai confiance dans son talent d'ingénieur. Dans quelques mois, cependant, la lumière de ses moteurs ne sera plus visible. Non pas parce que la lumière ne sera pas assez intense, mes instruments sont très sensibles. Plutôt parce que nos vélocités relatives causeront un décalage vers le rouge de la lumière émise par ses moteurs. Sa fréquence ne sera plus celle de Petrova. Et alors? Irais-je jusqu'à effectuer de très complexes calculs relativistes pour déterminer nos vélocités relatives à n'importe quel moment,
tel que perçu par mon cadre de référence inertielle, avant de pratiquer une transformation de Lorentz pour savoir quand la lumière de ses moteurs deviendra invisible pour le pétrovascope? Uniquement pour savoir pendant combien de temps encore je pourrais voir le vaisseau de mon ami au loin? Ce serait pathétique, non?
Si.
Voilà. Mon triste rituel quotidien est terminé. J'éteins le pétrovascope et redémarre les moteurs tournants. Je passe en revue mon stock de rations. Je suis sur la route depuis 32 jours. D'après mes calculs, je passerai à la bouillie nutritive dans 51 jours. Je descends dans le dortoir. Ordinateur, je veux un échantillon de bouillie nutritive. Les bras mécaniques fouillent dans leurs réserves et attrapent un sachet de poudre blanche qu'ils lâchent sur mon lit. Je m'en saisis. De la poudre, évidemment. On ne peut pas garder ce genre de choses sous forme liquide sur le long terme. Le Dernière Chance dispose d'un circuit fermé pour son eau. Elle entre dans mon corps avant d'en sortir de diverses manières et d'être purifiée et réutilisée. J'emporte le sachet dans le labo où je l'ouvre pour verser un peu de poudre dans un bécher. J'ajoute un peu d'eau, mélange le tout jusqu'à obtenir une bouillie blanche et laiteuse. Je la sens. Elle ne sent rien du tout. Alors je la goûte et j'ai le plus grand mal à me retenir de cracher. La bouillie a un goût d'aspirine. Ce goût affreux de cachet blanc. Dire que je vais devoir me taper ce truc amer à chaque repas pendant plusieurs années. Le coma ne serait peut-être pas une si mauvaise solution. Je repose le bécher. Je m'occuperai de cela plus tard. Pour le moment, je vais travailler sur les scarabées. Grâce à Rocky, je dispose de 4 petites fermes atomibes. Elles ressemblent à des capsules en acier pas plus grosses que ma main. Enfin, je dis « en acier ». En réalité, il s'agit d'un alliage que nous autres humains n'avons pas encore inventé. Il est beaucoup plus dur que tous nos alliages, mais moins dur que nos outils destinés à couper le diamant. Nous avons beaucoup réfléchi à la conception des boîtiers. Le choix de la xénonite semblait de prime abord évident, sauf que les scientifiques terriens auraient été incapables de la découper. Leurs outils auraient été inutiles, et la seule option aurait été l'usage d'une chaleur extrême, mais le risque de tuer les tomibes aurait été grand. J'ai proposé un contenant en xénonite pourvu d'un couvercle fonctionnant comme une porte pressurisée. J'aurais laissé des instructions sur une clé USB pour l'ouvrir en toute sécurité. De l'avis de Rocky, toutefois, le joint n'aurait pas été parfait, l'air aurait fini par s'échapper et les tomibes par suffoquer et mourir. Selon lui, la ferme devait être constituée d'un seul contenant parfaitement étanche. Il avait raison. Voilà pourquoi nous avons opté pour l'acier éridien. Il est solide, s'oxyde très peu, et il suffit d'une scie à diamant pour le découper. Et puis, mes congénères pourront l'analyser pour le reproduire. Tout le monde sera gagnant. Pour ce qui est des fermes en elles-mêmes, Rocky a conçu un système simple, ingénieux et élégant. Les boîtiers contiennent une colonie de tomibes actives, une atmosphère identique à celle de Vénus et une bobine de tuyaux en acier abritant des astrophages. Pour s'alimenter, les prédateurs doivent progresser dans la bobine qui mesure un total de 20 mètres. Quelques expériences rapides nous ont permis de déterminer que ce garde-manger leur permettra de tenir plusieurs années. Pour ce qui est de leurs déchets, les tomibes mijoteront dans leur propre caca. Au fil du temps, la capsule s'emplira de méthane et perdra du dioxyde de carbone. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance. Si la capsule est toute petite à l'échelle des hommes, elle constitue une gigantesque caverne pour des tomibes microscopiques. Les scarabées sont ma priorité. Je veux qu'ils soient prêts à partir lorsque le moment viendra. Ou à n'importe quel moment. Au cas où il se produirait un événement catastrophique à bord du Dernière Chance. Mais je ne les lâcherai que si c'est nécessaire. Plus je serai proche de la Terre lorsque je les lancerai, plus leurs chances d'arriver à bon port seront grandes. En plus d'y installer les mini-fermes, je dois leur faire le plein de carburant. En effet, j'ai utilisé la moitié de leurs astrophages lorsqu'ils m'ont servi à propulser le Dernière Chance. Heureusement, ils n'ont besoin que de 60 kg chacun, une goutte d'eau comparée à la quantité d'astrophages que m'a offerte Rocky. Le plus dur est d'ouvrir les petits réservoirs. Comme tout ce qui m'entoure, ils n'étaient pas prévus pour être réutilisés. Vous imaginez remplir un briquet jetable avec du butane? Bref, ce n'était pas prévu pour cela. Le réservoir est entièrement scellé. Je dois l'installer sur la fraiseuse et le percer avec une mèche de 6 mm. Ce n'est pas une mince affaire, mais je suis devenu bon à ce genre de choses. J'ai terminé John et Paul hier. Aujourd'hui, je compte finir Ringo et peut-être commencer George. George sera le plus facile. Je n'ai pas besoin d'accéder à son réservoir, puisque George ne m'a pas servi de propulseur. Il me suffira d'y installer la ferme. Il n'a d'ailleurs pas été facile de trouver un emplacement pour les mini-fermes. Malgré leur petite taille, elles n'entrent pas dans les sondes. J'ai donc décidé de les coller à l'époxy sous le châssis, avant de souder un contrepoids sur le dessus du scarabée. L'ordinateur des petits engins a une idée précise de l'emplacement de leur centre de gravité. Il est plus facile d'ajouter un contrepoids que de reprogrammer complètement le système de guidage. Ce qui nous amène à la question du poids. Du fait de l'addition des fermes, les scarabées pèseront environ 1 kg de plus que prévu. Cela ne devrait pas poser de problème. Je me rappelle les innombrables réunions de travail avec Steve Hatch. Steve est un type un peu bizarre, mais en matière de voyage spatial, c'est un génie. Les scarabées déterminent leur position dans l'espace en regardant les étoiles. Et s'ils constatent qu'il leur reste moins de carburant que prévu, ils compenseront en diminuant leur accélération. Pour faire court, ils finiront par rentrer à la maison. Cela peut simplement prendre un peu plus de temps, mais pas beaucoup. J'ai fait tous les calculs, et du point de vue de la Terre, la différence sera négligeable. Pour le scarabée, en revanche, plusieurs mois supplémentaires s'écouleront. Je vais chercher dans un placard ma BVBA, bonne vieille boîte d'astrophage. C'est un fût en métal opaque monté sur roulette. Il y a plusieurs centaines de kilogrammes d'astrophage là-dedans, et la pesanteur est d'1,5 g, d'où l'ajout de roulette. Vous seriez surpris de voir ce qu'on peut accomplir dans un atelier d'usinage et la volonté ferme de ne pas trimballer des trucs lourds. J'attrape la poignée avec une serviette parce qu'elle est chaude et je tire le fût jusqu'à la table du laboratoire. Là, je m'installe confortablement et me prépare à un travail méthodique, faire le plein d'un scarabée. Je m'arme de ma seringue en plastique. Grâce à elle, je peux injecter 100 millilitres d'astrophage d'un seul coup par l'ouverture de 6 mm. Ce qui représente environ 600 grammes et signifie que je vais devoir répéter ce geste près de 200 fois. J'ouvre ma BVBA et... Hein ? Je grimace et m'écarte du fût. L'odeur est horrible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Soudain, je comprends. Je connais cette odeur. C'est l'odeur des astrophages morts en voie de décomposition. Les tomis vont encore frapper.